Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022. Il est 20h. Et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation.
En retrait pour Giret,
Pour la Belgique.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Fouch, vous êtes un salaud.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après un beau week-end sportif et une semaine magnifique, hein, une semaine historique même pour le football belge en Ligue des Champions. On vous détaillera tout ça, j'espère donc que vous avez tous passé une excellente semaine. Ce soir à mes côtés, deux chroniqueurs qui vont nous ravir de leurs commentaires et de leur sagacité et de leur vision du football. On commence par Mr. Music, fondateur de l'agence Sportimize, agence spécialisée en conseil, communication et marketing sportif, Alexandre De Meyter. Salut Alex, comment ça va ?
Salut Sam, salut Blaise, bonsoir à tous. Comme les clubs belges en Europe.
Comme les clubs belges, très bien. Eh ben c'est parfait, c'est parfait. En face de lui et à mes côtés, Ah l'OM, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'OM ? Une semaine un peu tristounette hein, pour le club préféré de notre Blaise van der Linden. Salut Blaise.
Salut Sam, salut Alex. Oui, effectivement, une semaine un peu compliquée, mais on garde espoir. Hein.
Bah oui, il faut toujours, toujours garder espoir avec l'OM. Tout est possible. Aujourd'hui, bah, au programme, bien sûr, on va revenir. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par la Coupe d'Europe pour saluer l'exploit brugeois. Parler de Bruges, parler des autres matchs de Ligue des Champions qui nous ont intéressés, ainsi que des matchs de Ligue Europa, et surtout l'Union en Ligue Europa. On en viendra ensuite à la Jupiler Pro League, où il s'est passé pas mal de choses ce week-end. Et enfin, on va inaugurer une nouvelle chronique, où on va prendre un petit peu de hauteur, s'éloigner de l'actualité du football, et on va discuter de règlements et de possibles changements dans la réglementation. En l'occurrence, on va s'intéresser au serpent de mer que constitue le carton orange. Le carton orange qui n'existe pas, bien sûr, mais dont on entend de plus en plus parler ces derniers temps. Voilà, je crois que le programme est complet. Si on a un peu de temps, s'il nous reste un peu de temps, on parlera du fait qu'il y a la Ligue des Nations cette semaine. Ça intéresse vraiment tout le monde. Il y a qui sera.
Bon, je sens un peu de sarcasme dans ta voix, Samuel.
À peine. Oh là là. Allez, c'est parti. C'est parti. Et on commence, bien sûr, par la Ligue des Champions, dont c'était la deuxième journée la semaine passée. Évidemment, on va parler de l'exploit du représentant belge en Ligue des Champions, le club de Bruges, sur la pelouse de Porto. Les Brugeois se sont imposés 0-4. Alors après son succès initial face au Bayer Leverkusen, le club de Bruges compte 6 points. Il ne va plus pouvoir se cacher très longtemps, mais commençons d'abord par l'exploit de mercredi et cette victoire 0-4. Comment est-ce possible ? En tout cas, on en discutait avant le match, on avait fini par conclure que le groupe était assez finalement homogène, même si le Maccabi, on en parlera plus tard, l'Atlético Madrid restait quand même comme le favori et le plus grand des quatre clubs du groupe, mais il y avait quand même matière à discuter sur l'existence d'un réel favori, grand favori. Et avec ses succès de Bruges lors de ses deux premières journées, les cartes sont tout à fait rebattues. Mais qui aurait pu croire à un tel exploit 0-4 comment est-ce que c'est possible, selon vous, vous qui avez vu décortiquer le match? On va commencer par Alex, ton analyse sur cet exploit qui a dû t'enchanter. D'ailleurs, pour rendre hommage
à Didier
et au Blauwenzwart, on va mettre un petit peu la musique en fond.
Non, c'est exceptionnel.
Ça, je pense que tout le monde s'accorde à le dire, et c'est très inattendu. Comme tu dis, on en parlait avant, on se disait un match nul à Porto, ça ne serait pas mal. Porto n'a jamais perdu à domicile face à une équipe belge. Et là, Bruges va leur enfiler 4 buts. Porto était bien à 11 tout le match. Porto a joué avec son équipe type. Il n'y a pas de
mauvaise surprise
ou pas d'excuse. Après, Bruges l'a joué très intelligemment. Il marque au bon moment, il y a un pénalty, Porto doute, tu as la mi-temps. Je pense que Sergio Conceição a fait un game plan pour la deuxième mi-temps et après 5 minutes, c'était 0-3. Ouais, donc ça Bruges marque au bon moment. Il y a un tas de circonstances qui étaient très favorables au club, mais ça reste la plus grosse victoire à l'extérieur déjà en Europe, de 1. Et de 2, une des plus grosses défaites de l'histoire de Porto à domicile en 125 ans. Il n'y a que Liverpool qui leur en a mis 5. Donc,
oui, ça place un petit peu l'exploit réalisé par les Brugeois lors de ce match. Blaise, toi qui...
Moi, j'étais assez impressionné par ce résultat. Bon, je vous avoue, je regardais une autre chaîne, moi, ce soir-là. Mais effectivement, quand je voyais les notifications défiler sur mon téléphone, autant la semaine d'avant, la victoire contre les Leverkusen, on se disait, bon, ok, les Leverkusen, ils sont un peu à la rue en Bundesliga. Mais là, contre Porto, et avec la manière, quoi. 4-0, comme tu l'as dit, c'est un score, c'est un gros score, quoi. Et moi, je m'y attendais pas du tout. On sait, enfin, Bruges aussi, au championnat, c'est pas non plus, c'est pas la vie en rose. Et j'ai vraiment l'impression que cette coupe d'Europe, c'est leur parenthèse enchantée, quoi. Maintenant, ils ont quand même pris 6 points sur 6. Il leur reste les deux matchs contre l'Atlético, mais ils sont super bien partis pour la qualif quand même.
C'est bien parti, mais comme on le disait, ça reste très homogène. Ouais. Tu prends 0 sur 6 face à l'Atlético, tu peux te retrouver 3e très facilement. Ouais. Donc,
c'est ça, tout le monde peut revenir sur toi assez facilement. Mais quand même, techniquement, il y avait sans doute plus de... Est-ce qu'il y avait plus d'envie côté brugeois ou est-ce que... Parce qu'il y a... c'est pas uniquement les... c'est pas uniquement le fait que tout soit... bien déroulé, qu'ils aient marqué au bon moment, etc. Il y a eu un surplus de quelque chose côté brugeois.
Il y avait une envie de très bien faire.
Oh, c'est ça.
Je pense que Karl Lufkens les a tous surmotivés parce que c'est la Ligue des Champions, parce que c'est à Porto. Et tout le monde a suivi scrupuleusement aussi le game plan, la tactique du coach ou du staff. Ça, c'est essentiel dans cette victoire. C'est que tout le monde... s'est mis au diapason et a suivi à la lettre toutes les consignes pour justement l'emporter comme ça. Parce que Porto, ils ont eu très 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 peu d'occasions. Ouais. Après le 0-1, il y en a eu une que Mignolet sauve très très bien. Mais pour le reste, c'était très amorphe.
Ouais, c'est...
Donc Bruges n'a pas laissé Porto jouer non plus. Un peu comme le Standard l'a fait à Bruges hier dans d'autres circonstances. Mais c'était surtout ça. C'était là, pour moi, la clé du match, elle était là.
Ouais, et c'est vrai que les joueurs de Porto, enfin le club de Porto a beau perdre régulièrement des joueurs, ils en font venir de nouveaux. Alors d'une saison à l'autre, c'est pas forcément le même niveau exactement. Bon, je pense à Vitinha qui est parti, à Luis qui est parti à Liverpool.
Luis Diaz.
Mais quand même, 0-4, c'est hyper impressionnant. Qui est-ce qui vous a le plus impressionné côté brugeois? Est-ce que le calme, la maturité de Jouda, par exemple.
Mais tous, je pense.
Ouais, c'est
un vrai match. Tu ne sais pas sortir un joueur de ce match. Tu vas prendre Mignolet, il a fait une parade essentielle au bon moment. Tu vas prendre Silla, qui a fait une grosse première mi-temps. Mechele, je l'ai vu relancer des ballons comme je n'ai jamais vu faire. Denis Odoi a joué son match. Bon, pour moi, c'était un des plus faibles, malheureusement, côté Bruges. Kasper Nielsen, il a fait un match énorme. Hans Van Aken était au bon moment, au bon endroit. Soa, il a fait il a couru comme il n'a jamais couru dans sa vie aussi, je pense. Jutkla, qui avait encore sur ce terrain. Même Noussa qui est monté au jeu. Tout le monde.
Les 11 et puis les 4 qui sont rentrés, ils étaient en état de grâce. Et je pense qu'ils étaient surmotivés pour ce match-là. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'est à l'extérieur, que c'est pas devant leur public.
C'est d'autant plus impressionnant, effectivement, que c'est à l'extérieur, qui n'avaient pas Noah Lang, alors qu'il commence à être remplacé assez bien d'ailleurs par d'autres joueurs, mais ça, au début de saison et en fin de saison dernière, on disait que c'était quand même...
La saison dernière, on nous avait dit qu'ils allaient se passer de langue en Champions League, je ne sais pas si on aurait cru.
C'est ça.
Après, on doit faire une parenthèse aussi, c'est magnifique, c'est exceptionnel, c'est tout ce qu'on veut. L'année passée, au même moment, ils avaient 4 sur 6 après un match à domicile face au PSG, un déplacement à Leipzig, troisième de Bundesliga accessoirement, qui a encore fait un gros match ce week-end... Non, pas du,
non
tout.
Pas du tout.
Ils ont perdu 3-0 à Gladbach. Bonne prestation de Gladbach. Non, sans déconner. 4 sur 6 l'année passée au même moment, 6 sur 6 cette année, puis la machine s'est arrêtée. C'est très important justement que Bruges garde cette envie, parce que sinon ils vont quand même terminer 4e, malgré un 6 sur 6 d'après moi.
Allez, alors,
et Bruges doit même en fait espérer que Leverkusen soit plus fort que Porto. Parce que je vois mal Porto aller mettre 0-5 à Bruges au match retour entre guillemets.
C'est-à-dire qu'effectivement, tu as raison de souligner que l'an passé, ils étaient également bien partis.
L'an passé, il y a 2 ans aussi. Trois ans que Bruges commence très très bien ses campagnes européennes et qu'ils les finissent un peu en dents de scie, quoi.
Donc il va falloir qu'ils se servent de ça, de leur expérience maintenant acquise au gré de ces pertes de confiance ou de perte de niveau au fil de la Ligue des Champions pour pouvoir maintenir le cap. On a parlé donc de ce match où il y a eu donc 4 buts marqués par 4 joueurs différents, dont Nusa qui est entré, Skovolsen. Une fois qu'on a parlé de ce match, projetons-nous un peu dans l'avenir. On sait que là, on a la coupure due à la Ligue des Nations, donc ça va sans doute faire du bien à tout le monde, même s'il y a des joueurs qui seront concernés, mais dans la tête peut-être aussi, ça permet de prendre un petit peu de recul. Et on va accueillir le 4 octobre l'Atlético Madrid pour là un match à fort enjeu, dans la mesure où une victoire, ça ferait 9 points, ça laisserait les Madrilènes à 6 points de Bruges, puisque Madrid, l'Atlético, tout comme le Bayer Leverkusen, compte 3 points et Porto 0. Il ne peut pas y avoir énormément des consignes très compliquées à donner. Quand je dis ça, c'est jouer votre match.
Tu joues l'Atlético Madrid.
Ouais, ouais.
Après, il ne faut pas de pression superflue. Effectivement, tu gagnes ce match. Il y a de fortes chances, si pas 99,99%, que tu passeras l'hiver en Europe.
C'est ça.
Et il y a peut-être, c'est peut-être le meilleur moment de les prendre, l'Atlético, parce qu'en ce moment, ça ne joue pas du tout bien. Et encore hier, face au Real, c'était une bouillie. C'est dommage, parce que l'an passé, au début de l'année, on avait l'impression qu'on avait un nouveau Simeone avec un nouveau style de jeu, mais en fait, pas du tout. Enfin, je vais peut-être être grossier dans ce que je vais dire, mais c'est facile de jouer contre l'Atlético parce que tu sais comment ils vont jouer. Tu sais qu'ils vont jouer à 6 derrière et puis qu'ils vont donner la balle à Joao Félix devant et qu'il va essayer de se débrouiller tout seul. Donc le plan de jeu, il est connu. Et ça, c'est peut-être un avantage pour toutes les équipes qu'ils affrontent, en fait.
Ouais.
Sauf pour une équipe qui a l'habitude de faire le jeu comme Bruges.
C'est ça. Et donc à domicile, Bruges qui a l'habitude de faire le jeu va devoir le faire et s'exposer aux plus grosses forces de l'Atlético, c'est-à-dire les contre-attaques, les reconversions, avec ou sans Griezmann, puisqu'on...
Pour les 25 dernières minutes.
Pour les 25, il a joué là, ils ont sacrifié quand même un match. Il semblerait que tout cela va se régler quand même bientôt et que la somme de 45 ou 50 millions qui était prévue au cas où il jouait la moitié des matchs va être largement réduite et qui pourra jouer tous ses matchs d'ici là.
Peut-être préciser pour les auditeurs, en fait, Griezmann était à Barcelone, il appartient à Barcelone, il est prêté pour 2 saisons à l'Atlético Madrid avec une clause de 40 millions d'euros s'il joue plus que 50% des matchs en 2 ans. Donc il a joué énormément l'année passée et là le board, on va dire, de l'Atlético a obligé Simeone, le coach, de ne pas faire jouer Griezmann suffisamment de minutes, comme ça il ne devrait jamais payer cette clause de 40 millions. Donc pour ça qu'il rentrait à la 62, 63, 64e minute pour arriver à un pourcentage de 48-49% en fin d'année.
Qui le fera être juste en dessous. C'est vrai que ça peut paraître assez cynique et vraiment calculateur, ce que c'est en réalité. Mais d'un autre côté, les dirigeants de l'Atlético Madrid se disent le Barça est tellement mal en point. Ils font partir des joueurs, ils demandent aux joueurs de baisser... leur salaire, et ils ont peut-être pas envie d'être les seuls à devoir mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir acquérir un joueur qui leur appartenait en plus. Il y a aussi cela, il jouait bien sûr à l'Atlético avant. Donc avec ou sans Griezmann, on verra. L'Atlético, effectivement, n'est pas dans sa meilleure forme. Joao Félix, qu'on attendait, ça fait... Je sais pas, il est encore tout jeune, mais bon, les très jeunes espoirs, grandes promesses qui mettent un peu plus de temps que prévu à se révéler, ça devient parfois
un peu douteux.
C'est
toujours compliqué pour un joueur de son style de jeu d'évoluer dans une équipe de Simeone. C'est pas que de faire offense au jeu de Simeone, mais enfin, Joao Félix, quand on le voit, il est tout frêle, il est tout petit, dans une équipe super physique, bah, ça marche pas forcément. Ouais. Et pour faire la comparaison avec Griezmann quand il est arrivé, c'était un peu le même profil, sauf qu'en fait Griezmann il a complètement changé son jeu et il a eu la chance d'avoir Deschamps en équipe de France qui a à peu près le même style de jeu que Simeone et donc il a été façonné
par ça.
Sois
pas désagréable.
Après c'est... n'oublions pas, il y a eu Bruges Atlético Madrid il y a quelques années, c'était 0-0. C'était pas évident, mais l'Atlético, une demi-occasion, c'est 0-1, il ferme boutique et Bruges est vu entre guillemets, donc... Je pense qu'il y a même une grosse occasion pour Luan Pérez que Blaise connaît bien à l'époque.
Et vous pensez qu'ils ont encore la force offensive suffisante, l'Atlético Madrid, parce qu'ils ont...
Bien sûr.
Ouais.
Il ne faut jamais enterrer l'Atlético.
C'est vrai. L'Atlético peut te gagner 10 matchs d'affilée 0-1.
C'est vrai.
Sans aucun souci.
Ce ne sera pas un problème pour eux. Effectivement. Donc le 4 octobre, c'est la date du prochain rendez-vous européen du club de Bruges, qui est idéalement parti et à qui on souhaite le meilleur pour la suite de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Je vous propose qu'on passe à un autre match qui avait nous intéressé particulièrement ici, celui du PSG. Non, c'est du enfin, il y avait le PSG qui était impliqué, mais c'était surtout pour le Maccabi Haïfa. On avait dit avant le match que le Paris Saint-Germain avait toutes les cartes en main. Qu'il y avait un déséquilibre évident sur le papier entre les superstars parisiennes et les, ma foi, très bons joueurs du Maccabi Haïfa, mais qui en principe ne devaient pas avoir droit voix au chapitre et devaient sans doute se faire massacrer par le Paris Saint-Germain. Il y avait quand même quelques motifs d'espoir qu'on avait noté, une défense parisienne qui n'était pas au complet, un public de Haïfa qui est bouillant, et puis le fait que le PSG, c'est le PSG. Et puis on a eu un petit peu de tout ça. Et on a notamment eu...
Je pensais qu'ils avaient déjà gagné la Ligue des Champions, Paris.
Pas encore, jamais, jamais. Mets-toi bien ça dans la tête, vous ne serez jamais les premiers, et nous jamais. Non, les Israéliens ne se sont pas du tout laissés impressionner, même s'il y avait une ferveur assez incroyable autour de Messi notamment. On a vu pas mal d'enfants monter sur le terrain juste pour le toucher. Il y avait un respect fou pour Messi. Mais ils ne se sont pas laissés impressionner. Les joueurs ont au contraire pressé. Ils ont rendu la tâche très très ardue aux Parisiens qui ne réussissaient pas à se trouver aussi facilement que d'habitude. Et l'exploit a même commencé à poindre lorsque Tcharon Cherry, le meneur de jeu du Suriname, du Maccabi Haïfa,
petit joueur, lui. Hein.
Ouais.
J'ai regardé un peu le match, franchement.
Il a mis une belle frappe, il a un super tir. Le week-end d'avant, il avait mis aussi une frappe magnifique en championnat. Et ça, ça a eu le don de faire entrer en fusion le stade. Mais ça a aussi permis aux Parisiens de réagir au travers de leurs trois galactiques, j'ai fait les guillemets avec mes doigts, vous ne le voyez pas, qui ont tous marqué et donc ont permis au PSG de s'imposer 1-3. Physiquement, il y avait une classe d'écart, disons que c'est ce qui a fait la différence. On l'avait déjà noté contre Benfica, où ils avaient fait une bonne première mi-temps, et puis une fois que Benfica a appuyé un petit peu plus, c'était difficile pour le Maccabi Haïfa. On a pu être étonné de la prestation des Parisiens, déçus, étonnés. Quand je disais l'espoir, un des motifs d'espoir de Haïfa, c'est que le PSG, c'est le PSG. C'est vrai que ça a été un peu le cas.
Une fois de plus, ils s'en sont remis au 3-2 devant, quoi.
Ouais.
Et c'est constant comme analyse, c'est que en fait ils sont, et c'est même pas un exploit collectif, c'est juste des exploits individuels. Et franchement, enfin, l'intensité qu'a mis Haïfa dans les 30-35 premières minutes, Paris s'est pas fait bousculer comme ça cette saison.
Non, c'est vrai.
Que c'est le Maccabi Haïfa, quoi. On n'est pas contre le Real ou
donc c'est ça.
Hyper valeureux. Et puis tu le disais, quand tu te donnes à 120% contre le PSG au bout de 35 minutes, t'es cuit. Et donc, la deuxième mi-temps, bah, tu te fais marcher dessus parce que les mecs, ils sont 3, 4, 5 classes au-dessus de toi. Quoi.
Ouais. Après, est-ce que le PSG n'allait pas à IFA en se disant « c'est notre pire match des trois premiers mois »
Je pense qu'il... Ouais, je pense qu'il...
Notre pire déplacement peut-être, ouais. Oui, même en Ligue 1, etc., qui se disent on s'en fout, on va quand même gagner. Et,
c'est ça, bah, c'est en non, ça
c'est sûr, et puis ils ont pris un bain de foule, c'était plus le PSG en démonstration qu'autre chose. Quoi.
Les Harlem Globetrotters qui débarquent.
On aurait dit le trophée des champions en Chine.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils étaient donc déjà allés en Israël pour le trophée des champions précédemment. Et c'est vrai qu'ils sont hyper populaires. Il y avait, on en parlait, on avait un supporter du PSG fan club la semaine passée. Il y avait plus de 1000, enfin il y avait environ 1000 supporters du PSG israéliens qui venaient du fan club. Donc le PSG hyper populaire, mais à côté de la ferveur du stade, c'est rien.
Au Bloomfield aussi, au Trophée des Champions, et là, je sais plus comment s'appelle le stade de Haïfa.
Sami Ofer.
J'étais impressionné par l'ambiance, quoi.
Ah. Eh bien, justement, non, mais t'as raison. L'ambiance était impressionnante. Le stade de Haïfa est connu pour ça. Et les Parisiens, d'ailleurs, ont expliqué certains à l'issue du match que l'ambiance du stade donc les avait surpris. Et qu'ils avaient eu parfois un peu de mal à se comprendre. Ça peut paraître comme une piètre excuse. C'est vrai que les fans du Maccabi Haïfa chantent, crient, hurlent pendant 90 minutes et que ça fait un bruit assourdissant. De là à ce que ça empêche les joueurs de communiquer, c'était un peu douteux. Et puis j'ai écouté à la télé française, il y avait l'équipe 21, et écouté le témoignage c'est Bertrand Latour, journaliste de l'équipe 21, qui était en direct à Haïfa et qui couvrait le match. Et voilà ce qu'il dit en tout début de son intervention.
Juste commencer en introduction par vous dire que j'ai trouvé l'ambiance ici à Haïfa absolument exceptionnelle, et c'est peut-être une des plus belles ambiances que j'ai vues depuis que je débutais ce métier. C'était vraiment exceptionnel, incandescent, sans agressivité non plus, donc c'était vraiment parfait. Pour ce qui est du match, pas surpris, mais à la limite c'est moins intéressant de savoir si j'étais surpris ou non que d'établir...
Voilà, mais donc il était un journaliste français qui a l'habitude de couvrir les matchs, a vraiment insisté sur l'ambiance. Donc bon, ben on peut croire qu'effectivement ils avaient du mal à se parler. Moi je crois aussi surtout qu'ils ont, comme tu l'as dit Alex, joué comme le PSG sait le faire quand ils ont pas envie vraiment et qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs, que ça va aller tout seul, et puis ben voilà, ils ont réussi à gagner quand même, mais bon,
probablement. Après, il y a une chose qui m'a vraiment frappé, et j'ai vu ça sur Instagram, c'était un supporter qui a joué à Yamakasi et qui a sauté au-dessus de toutes les barrières possibles et qui a commencé à grimper le stade pour s'infiltrer dedans gratuitement. Ce n'est pas un supporter de Liverpool comme on l'a vu au Stade de France l'autre fois, mais ça m'a vraiment impressionné parce que le gars, il était bien agile, il est bien rentré, il s'est faufilé entre tout le monde, tous les stewards, et en une fois il était dans le stade, donc un supporter en black, on va dire.
Voilà. Et ils sont c'est vrai que Messi est une divinité quasiment, et il a drainé énormément de monde dans son sillage. Je crois qu'il est plus populaire encore là-bas que Neymar ou Mbappé. Donc dans ce groupe du PSG avec la Juve et Benfica, là encore la Juve comme Porto, la Juventus, ça commence à faire peur. Le PSG l'avait emporté 2-1, Benfica l'a emporté 1-2.
Bonne nouvelle pour Haïfa.
Ouais, et les deux équipes sont à 0. Et le PSG et PSG Benfica qui se rencontreront lors de la prochaine journée sont tous les deux à 6, donc effectivement la prochaine journée va être intéressante, et malheur aux vaincus entre la Juve et le Maccabi Haïfa, même si je dirais quand même malheur à la Juve s'ils perdent le Maccabi Haïfa, on l'attend quand même. Mais bon, y avait d'autres matchs, on va pas revenir sur tout, mais on va parler forcément du but exceptionnel de Erling Haaland face à son ancien club de Dortmund. Ils étaient menés 0-1, ils sont revenus et il a marqué un but à la Cruyff, comme on dit, une balle un peu haute qu'il a reprise du talon, entre à la Cruyff et à la Zlatan, le genre de geste un peu acrobatique, fou.
Il aura bientôt son superlatif aussi, Haaland.
Sûrement.
C'est fou. Enfin, l'adaptation, moi je doutais pas énormément, et je faisais parmi de ceux qui disaient que c'était le chaînon manquant du 11 de Guardiola. mais il a eu quand même pas mal de critiques, enfin pas de critiques, mais de gens qui étaient sceptiques à son arrivée en Angleterre. Et là, il est en train de juste fermer les bouches de tout le monde. Quoi. Ah, c'est impressionnant. Le mec est surhumain.
Il est effectivement hyper impressionnant et il semble s'être fondu parfaitement dans le groupe. Et on en parlait déjà, et je pense qu'on va continuer à en parler, mais l'association avec Kevin De Bruyne est assez exceptionnelle. On va à Milan. Le Milan l'a emporté 3-1 avec un but de Alexis Salamakers, qui
son deuxième en deux matchs.
Et je crois que c'est la première fois qu'un joueur du Milan, enfin la première fois depuis Alexandre Pato, il y a déjà un certain temps, qu'un joueur du Milan AC inscrit deux buts consécutifs, enfin un but lors de deux matchs consécutifs. Bah c'est bien pour Alexis Salamakers.
Ça fait un petit temps qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions.
C'est vrai. C'est vrai aussi.
C'est pas trop mal. C'est,
voilà. Il y a eu moins un exploit, un score, c'est aussi au Portugal, c'était le Sporting Tottenham, avec ces deux joueurs qui nous ont fait. Le premier a failli marquer le but du siècle, quasiment. C'est comme ça qu'on. En exagérant un petit peu. Mais il est parti du milieu de terrain à dribbler 3 ou 4 joueurs et finalement c'était à côté. Et son remplaçant dans les arrêts de jeu a marqué un but fabuleux aussi en passant en revue avec des petits crochets, des petits dribbles, toute la défense de Tottenham. 2-0 pour le Sporting face à Tottenham. C'est étonnant comme score quand on connaît la puissance des deux championnats qui est quand même assez
Le Sporting,
éloigné.
C'est pas hyper chatoyant comme jeu, mais c'est tellement bien huilé, cette espèce de 5-3-2 là, mis en place par Amorim. C'est si bien exécuté de nouveau. Moi, je trouve pas que ce soit un très très beau football, mais c'est vraiment, ça marche parfaitement. Quoi. C'est hyper beau à voir jouer. Même si le jeu en lui-même, balle au pied, il est pas dingue, mais c'est hyper beau, genre comment il se déplace et tout.
Ah, c'est effectivement, le Sporting est surprenant sur ce.
Je sens Blaise pas du tout à son aise pour dans deux semaines.
Ah non, mais ça c'est.
Ce sera Olympique de Marseille Sporting Lisbonne d'ailleurs.
Oui.
Ah, mais ça c'est fini, c'est sûr.
L'OM, on en parle un instant, battu à domicile par l'Eintracht Francfort sur un but juste avant la mi-temps. Ils ont été dominés dans quasiment tous les compartiments
ouais,
du jeu.
1-0, c'est bien payé.
Ouais, ouais c'était. Bon, on en a parlé, l'entraîneur de l'OM a fait des miracles. Fait des miracles, j'exagère un peu, mais personne ne s'attendait à ce que l'OM soit, avant la journée qui vient de s'écouler, au niveau du PSG en nombre de points. Et donc, dans le top du championnat, là, ils ont fait un match nul et donc sont deuxièmes, mais ils font des résultats incroyables. En revanche, en Coupe d'Europe, donc toujours pas de victoire. Et puis, des choix un peu bizarres. On a trouvé Dimitri Payet qui est mis sur le banc quasiment tout le temps en championnat, alors que c'est là où il devrait.
Enfin, moi, j'étais derrière ma télé. Bon, vous savez, je suis un fervent supporter de Payet, mais à partir d'un moment où le mec a 35 ans, que tu le fais pas jouer un seul match titulaire depuis le début de la saison et que tu le jettes dans un style de jeu qu'il a jamais joué en Ligue des Champions face à Francfort avec Gerson qui a exactement le même pedigree, c'est-à-dire qu'il a quasi pas joué. Tu les jettes tous les deux en Ligue des Champions, c'est juste pas possible. Quoi. Enfin,
c'est très étonnant comme choix. Ouais.
C'est trop bizarre. En laissant Guendouzi, qui est le meilleur joueur de la saison, sur le banc, et en laissant, je suis pas un grand fan de Jordan Vertoux au milieu, c'est juste pas possible. En plus, t'as Mbemba qui est suspendu, et bon, Gigo, même si c'est pas incroyable, mais il fait partie des trois derrière, et qui peut pas jouer. Balerdi qui voit pas le jour depuis le début de la saison. C'était très très bizarre ce 11 de base. Et quand on voit la performance face à Tottenham, c'est juste incroyable que cette équipe ait produit le jour et la nuit en une semaine d'écart. Quoi.
C'est vrai, c'est souvent ce que fait l'OM et malheureusement ça fait deux fois zéro point. Et comme tu le disais Alex, le prochain rendez-vous de l'OM, c'est avec le Sporting, il va falloir se réveiller. On va finir la Ligue des Champions avec un Bayern-Barça quand même. Personnellement, je m'attendais à ce que le Bayern atomise le Barça. J'en ai été pour mes frais, ils ont gagné certes, mais la différence ne s'est pas vue, bien au contraire, le Barça aurait pu.
La première mi-temps, elle est complètement pour le Barça. Hein.
C'est étonnant sur le sur le terrain du Bayern. Hein. C'est un Bayern qui pourtant, alors là on le voit depuis quelques semaines, ça se délite un petit peu en championnat, mais jusqu'alors ça allait très bien en Bundesliga. Et bon, certes le Barça est en plein renouveau, mais j'ai été moi assez étonné de voir la difficulté qu'avaient les Bavarois à venir à bout des Catalans. Est-ce que vous avez...
Moi, je suis toujours impressionné. Je suis impressionné par l'effectif du Bayern. Je trouve ça, enfin, le style de jeu de l'entraîneur Nagelsmann et l'effectif qu'il a à disposition, je les mets tous les joueurs dans les favoris à la Ligue des Champions cette année. Franchement, c'est
Surtout avec Mané en plus.
Et justement, j'allais y venir. Plus personne ne parle de Lewandowski à Munich. C'est fini, c'est oublié. Alors que Mané, c'est pas du tout le même style de jeu.
On n'en parle pas, mais tu sens quand même qu'il manque.
Oui, évidemment.
Parce que les buts faciles, entre guillemets, que Lewandowski marquait au Bayern, il n'y a personne qui est là pour reprendre ce ballon aujourd'hui. Donc le Bayern, ils ont un passage à vide qu'ils ont chaque saison, mais j'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu encore...
C'est plus tôt,
plus compliqué aussi, j'ai l'impression.
Non, mais c'était quand même permis de laisser sur le banc Matthijs de Ligt. Serge Gnabry et même Eric Maxime Choupo-Moting, vous vous rendez compte. Donc non, ils avaient vraiment eu le... Ils ont une profondeur d'effectif.
Est-ce que Bouna Sarr était sur le banc?
Bouna Sarr, non, il était dans la tribune, le pauvre. Au classement dans ce groupe dit de la mort, puisqu'il y a l'Inter qui a battu Plissen. Eh bien, le Bayern est en tête avec 6 points devant le Barça et l'Inter. 3 points chacun.
Celui des deux qui va rester sur le carreau, parce que normalement le Bayern va passer, mais que ce soit le Barça ou l'Inter, ça fera quand même, le Barça l'an passé et l'Inter il y a 2 ans, ça fera 2 contre-performances quand même, de sortir 3e de groupe et d'aller en Europa League.
C'est vrai, mais quand on voit le niveau, peut-être qu'il faudra relativiser. Mais
les objectifs peuvent changer pour le club en étant en Europa League et pourquoi pas la remporter.
Ouais. C'est vrai que c'est une option. Bah écoutez, je crois qu'on a tout dit sur la Ligue des Champions. On va passer l'Europa League, parce que on peut pas passer sous silence le parcours que réalisent nos unionistes préférés, non pas ceux de Berlin, bien sûr, mais ceux de Saint-Gilles, puisque l'Union Saint-Gilloise l'a emporté 3-2 à domicile face à Malmö. C'était le grand retour de la Coupe d'Europe, non pas
à Louvain.
À Louvain. C'était la seule petite chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, cette envie, ce retournement de situation qu'ont opéré les Saint-Gillois, hein.
L'envie, c'est comme à leur habitude, cette équipe ne lâche jamais. Ouais. Et on l'a encore vu en championnat hier à Eupen. L'Union va toujours se donner à fond. C'est un grand mérite du caractère, de la mentalité des joueurs et surtout de l'entraîneur et de son staff. Après, on va se rendre à l'évidence. Tu joues contre Malmö, qui est 5e ou 6e du championnat suédois. Donc, certes, ils encaissent, c'est 0-1. L'Union revient à 1-1. Malmö, sur un malentendu, remarque un deuxième but. Et puis, l'Union passe au-dessus en 2 minutes.
Ouais.
Mais c'est une super belle prestation. 6-6, c'est magnifique. C'est super pour le club, c'est super pour le football belge.
Ouais.
Mais si on ne bat pas Malmö, avec tout le respect qu'on a pour eux, c'est un peu embêtant.
C'est vrai.
Ouais, mais c'est gratifiant parce que tu sors aussi d'une victoire contre l'Union de Berlin, qui est leader de Bundesliga aussi, tu vois. Donc, c'est vrai que Malmö, c'est moins fort, mais c'est quand même génial de faire un 6-6 en poule d'Europa League, alors qu'il y a 2 ans, ils étaient en Division 2, quoi.
Ouais.
Et sachant que justement, ce 6-6, je pense qu'ils prennent encore 1 point. Il devrait également passer l'hiver en Coupe d'Europe, dans le pire, effectivement, d'être reversé en Conference League.
Oui, puisque le prochain match qui les attend, c'est face aux co-leaders du groupe, les Portugais de Braga. Le match aura lieu à Braga, au Portugal. Et là, inutile de dire que s'il y a une bonne performance, ou une très bonne performance de l'Union, ils seront effectivement très bien, très, très bien partis.
Pour le coup, Braga, c'est les seuls qui sont habitués à la Coupe d'Europe dans cette poule-là.
Ouais, c'est vrai que les...
Il faut quand même faire attention parce que l'expérience européenne, ils l'ont eu.
Ouais, ils ont l'expérience européenne. On verra tout ça. En tout cas, chapeau aussi à l'Union, chapeau surtout au club de Bruges. On en parlait. Ouais,
et chapeau à Anderlecht et à Gantoise aussi, qui ont fait de bons résultats. La Belgique a quand même pris 20-24 les deux dernières semaines en Coupe d'Europe, ça fait très 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 longtemps que ce n'est pas arrivé.
Ouais, et je pense qu'ils ont été sensibles à ton appel et à tu as sonné tu as annoncé que c'était on était en danger, que les pays qui étaient derrière nous pouvaient dépasser la Belgique et il fallait réagir et ils l'ont fait.
En l'occurrence, le danger, il est parti. Ouais. Ce n'est pas une raison pour s'arrêter là.
Non, mais
continuons, même si les places très intéressantes sont encore très très loin. Je pense qu'il manque 20 points. La Belgique est vers la trentaine de points. Les autres sont vers la cinquantaine. Ça, on manque cruellement de points, mais c'est une bonne année pour en prendre, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Eh bien, on va refermer cette partie européenne et on va revenir à notre bonne Jupiler Pro League qui revenait donc après les exploits en Coupe d'Europe. Et on va commencer, on va parler beaucoup de ce match que tout le monde attendait entre deux équipes qui étaient sur des bonnes séries. Le match qui opposait Asclessin, le Standard, au club de Bruges. Un match qui se sera terminé sur un score pas forcément attendu, puisque c'est une victoire du Standard. Les Standardmen ont réalisé un très grand match. On va tout de suite dire que sans doute, après l'exploit réalisé par Bruges en milieu de semaine, il est difficile, même avec un noyau assez large, il est difficile de se remettre tout de suite au travail aussi fort, et surtout quand on affronte un club comme le Standard qui est à domicile et qui redevient d'une certaine manière le Standard, c'est-à-dire qu'il joue bien et son public le pousse. Difficile dans ces conditions pour Bruges de réaliser un bon résultat.
Pour moi, il y a trois choses. D'abord, il y avait les Ultra Inferno qui avaient un tifo exceptionnel à partir d'une demi-heure déjà avant le match qui a eu... C'était vraiment une mise en scène. C'était un théâtre. C'était sublime à voir. J'y étais. Il y avait ça. Ça booste les joueurs, mais d'une manière incroyable. Ouais. De deux, il y a Ronny Della qui est le coach du Standard et qui a mis une tactique et une stratégie en place pour cadenasser Bruges très très haut avec une forte pression. Les joueurs l'ont suivi à la lettre. Ils ont bien tenu compte de ça. Bruges n'a pas eu d'occasion. Quasiment pas du tout.
C'est ça.
Et le troisième point, il y avait une suffisance du côté de Bruges. C'était abominable à voir également. Donc autant se concentrer sur la prestation exceptionnelle du Standard plutôt que sur Bruges. Tout le monde était mauvais. C'est aussi simple que ça.
Je suis assez d'accord. Concentrons-nous donc sur la prestation du Standard et sur les hommes forts de cette équipe. Et on va commencer par... Selim Amala. Amala, il a été au départ de pas mal d'actions. Il a été en début de match aussi. Il a montré aux adversaires qu'il allait falloir le museler, le tenir, le serrer de près. Il a fait un très bon match.
Comme à son habitude, j'ai envie de dire que c'est presque une surprise que Selim Amala soit encore joueur du Standard aujourd'hui.
C'est justement ce que j'allais dire, sachant qu'il était quasi à 75% sûr de partir cet été. Quoi.
C'est vrai.
Sait que les joueurs avec ce talent qui ont des transferts avortés, la saison d'après, elle est compliquée.
Elle est souvent compliquée, c'est vrai. Raskin aussi, qui a fait un très bon match, qui a ratissé tous les ballons qui étaient présents. Bonne défense aussi, et on va quand même revenir sur l'invité surprise, ou enfin celui qu'on ne connaissait pas ou peu, Philippe Zinkernagel.
Essaye encore une fois.
Zinkernagel.
Encore
Philippe Zinkernagel.
C'est presque comme le speaker du Standard.
Philippe, vas-y, je te laisse prononcer avec toi.
Philippe Zinkernagel, et que je trouve qu'il a fait un match exceptionnel. Après, c'est un joueur danois. Il a joué longtemps au pays. Après, il a été transféré. Il a joué à Nottingham Forest et Watford, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Et finalement, après, il se retrouve à l'Olympiakos et puis au Standard.
Et oui, tu peux nous raconter. Enfin, nous raconter. Je ne sais pas si en détail, mais enfin, il était. Quand tu dis, il s'est retrouvé à l'Olympiakos, c'est 7 matchs seulement.
Certes, mais il était présent sur le payroll.
Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez. Il venait en fait d'être transféré d'Angleterre à l'Olympiakos parce que l'entraîneur en place le voulait, mais il se trouve que l'entraîneur en place a été dégagé et que dans la foulée on lui a dit il serait pas mal que tu te trouves un autre club, et c'est comme ça qu'il atterrit au Standard, ce qui est génial pour le Standard. Il a montré beaucoup beaucoup de talent, de puissance aussi, enfin une super une bonne pêche pour le Standard. Donc tous les joueurs ont été excellents. Un mot sur le sur la stratégie, sur la tactique de l'entraîneur qui a été aussi primordial, bien sûr. On en parlait, on avait dit beaucoup de bien de lui quand il était en MLS. Il prouve là, en tout cas, c'est peut-être son acte de un premier acte fort, un premier statement dans le championnat belge.
Mais, disons déjà, tout le monde voyait le Standard comme équipe qui pouvait dégrader, malheureusement. Et je pense qu'il a petit à petit déjà pris ses galons. Il a pris sa place dans le football belge. Il a bien analysé tous les adversaires et ils ont commencé à prendre des points. Le jeu n'était pas sexy ou chatoyant, mais les points étaient là pour le Standard. Après, la prestation d'hier, voilà, c'est un des premiers piliers sur lesquels construire le futur du Standard. C'est une prestation énorme face aux champions en titre, mais la manière y était surtout. La manière, les points, tout était réuni hier. C'était un Standard d'antan, en fait.
C'est ça. On regrette que Steve Gris ne soit pas avec nous. On sait qu'il aurait partagé. Et il nous aurait fait partager son bonheur. Mais bon, et ben voilà. La prochaine fois, il pourra nous en reparler pour les prochaines victoires du Standard. On est sûr qu'il y en aura d'autres. Anderlecht, hier, victoire 4-1. On arrête un peu l'hémorragie côté Anderlechtois, puisqu'il y avait eu un enchaînement de mauvais résultats. Puis là, ça a été plus net, enfin ça a été net, 4-1, 4 buteurs différents, dont Jan Vertonghen qui a mis un joli but et dont on...
Je pense que tout le monde retiendra l'hommage à Michel Verschuren,
ouais, bien sûr,
en marge de cette rencontre, parce que bon, battre Courtrai, je ne pense pas que ce soit la tâche la plus compliquée pour qui que ce soit cette année. Mais non, l'hommage était très poignant, je trouve, à Michel Verschuren qui est décédé, qui est l'ancien manager d'Anderlecht, et c'est lui qui les a presque mis avec Constant Van den Stock où ils sont actuellement.
Et c'est vrai que dans ce genre de circonstances, tu parlais tout à l'heure du tifo des supporters rouges qui galvanisent les joueurs, de la même manière sans doute, c'est une autre corde sur laquelle on joue, mais lorsqu'il y a un hommage qui est rendu à une figure si importante d'un club, les joueurs, même s'ils ne l'ont pas jamais connu, ils doivent ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe et ça donne peut-être un supplément de, ouais, d'âme, d'énergie.
Comme tu dis, même Vertonghen est encore un peu jeune pour l'avoir connu, donc c'est tout dire. Donc non, je pense qu'on leur a inculqué, qu'on leur a expliqué un peu tout ce qu'il en était. Mais oui, effectivement, ça joue peut-être avec, mais c'était surtout, ils devaient gagner, ils ont gagné. Voyons la suite. Après la trêve.
Ouais, on reviendra après la trêve. Un dernier match dont on va parler en Jupiler Pro League, parce qu'on les aime bien, c'est l'Union. L'Union Saint-Gilloise qui se déplaçait à Eupen, ça n'a pas été le match du siècle. Il y a eu tout de même, il y a encore des bonnes pioches. Il y a encore des bonnes pioches. J'allais dire les scouts de l'Union et puis le fait de faire partie aussi d'un groupe, c'est quand même assez efficace. Ils ont Simon Adingra a marqué un but superbe. C'est son deuxième but. Il ne sait visiblement marquer que des buts très beaux. Et puis Victor Boniface qui a réussi à arracher la victoire. Dans le temps complémentaire, en s'imposant de la tête.
Ouais, suite à une bourde du gardien.
Oui, il est sorti un petit peu, on aurait cru, Donnarumma. Il a fait... en tout cas, l'Union Saint-Gilloise a réussi à enchaîner, ce qui n'est jamais simple après un match de Coupe d'Europe. Et puis surtout, comme on le dit, pour un club de l'envergure de l'Union, c'est extraordinaire de réussir à gagner le week-end d'après.
Et ça, c'est du Karel Gerhardt, leur entraîneur. On le connaissait en tant que joueur, il ne lâchait jamais. Il se donnait à 400% de la première à la dernière seconde. Et c'est ça qu'il inculque aux joueurs aussi la semaine. Et c'est ça qu'il veut voir. Et justement, comme tu le dis, ils vont chercher un but à la 92e minute. Après un match de Coupe d'Europe, déjà à rebondissement dans la semaine,
ouais,
qui avait la fatigue dans les jambes, ils vont chercher cette victoire qui est essentielle.
Ah, c'est une belle preuve de volonté et de constance chez les unionistes, et c'est vraiment ça aussi à noter, c'est rare, on le voit avec Bruges qui n'a pas réussi à gagner, bah, gagner la semaine en championnat après avoir gagné en Coupe d'Europe, c'est toujours compliqué. On n'a pas parlé de l'Antwerp qui continue sa promenade de santé, victoire 2-1 contre Seraing, bon, peut-être pas promenade de santé, mais en tout cas c'est 9-9, et au classement, il commence à y avoir un petit écart, puisque Genk a gagné également et se retrouve toujours à 5 points, Mais effectivement, la défaite du club de Bruges les met à 8 points de l'Antwerp. On rappelle qu'il y aura
c'est
une division.
C'est beaucoup en 9 matchs.
C'est beaucoup, voilà, c'est
vraiment
surtout
beaucoup
ça.
En 9 matchs. Mais après, voilà, l'Antwerp, ça se passe comme prévu. Et le prochain, ils vont le gagner aussi, normalement. S'ils ne le gagnent pas, ce sera une surprise négative.
On en a parlé.
C'est après que ça va commencer. C'est après qu'on va voir est-ce que Van Bommel va avoir ce qu'il avait dans ses précédents clubs. Parce qu'il a toujours très bien commencé. Ici, c'est un début impossible de faire mieux. Il a toujours très bien commencé. Et puis, il y a eu un passage à vide. Et là, ça a commencé à. Le stress a commencé à monter. Donc, il faudra voir, justement, après cette phase de 5-6 matchs contre tous les cadors du championnat. Ouais. Comment l'Antwerp va réagir, comment le coach va réagir, est-ce qu'ils vont savoir se réinventer ou pas, ça c'est affaire à suivre dans 3 semaines.
Ouais. Et puis on le disait, ils bénéficient aussi du fait de s'être sans doute de s'être fait éliminer de la Coupe d'Europe et de ne pas avoir un calendrier trop chargé. On rappelle donc le classement, l'Antwerp 27 points, deuxième Genk 22, le FC Bruges 19 points, quatrième toujours dans les bons coups. Enfin, en tout cas, toujours dans le haut du classement depuis le début de la saison, OHL, 17 points. Et puis, voilà, hein, on a parlé, on rigolait, mais qui est cinquième maintenant devant l'Union, devant la Gantoise, devant Anderlecht ? Eh bien, le Standard, 16 points. Il reste sur 4 victoires consécutives, un 12 sur 12.
Et c'est fou parce que je me souviens sur ce plateau même, au début de la saison, on encensait le travail d'Anderlecht et... Ils ont jeté des pierres sur le Standard. Au final, au classement, le Standard, ils sont bien devant, là.
C'est vrai, c'est vrai. On est... Mea culpa.
Ça nous non, mais comme quoi, ça, ça, ça tourne vite. Parce qu'au début de la saison, le Standard, personne n'aurait mis un seul copec sur le fait qu'il soit cinquième à la neuvième journée.
On a peut-être... Là, je parle... Alex, tu sais peut-être un petit peu mieux, tu le connais peut-être un peu mieux, mais je pense qu'on avait tous pas pris en considération l'entraîneur du Standard, qui était assez... inconnu, enfin il avait fait de bons résultats, mais voilà, peut-être qu'il a
on le connaît
méthode.
De nom, mais on ne connaissait pas ses qualités. Moi j'ai toujours dit, et je suis encore derrière cette idée, laisser le temps aux investisseurs de mettre le projet vraiment en place. Ce sera une année de transition, mais si cette année de transition se passe avec des résultats comme hier qui ne vont pas refaire contre Anderlecht, Gand, Antwerp et tout le monde, ils ne vont pas faire 18 sur 18 face à tout le monde. Mais des matchs comme ça de temps en temps, et alors un jeu qui leur permet de prendre des points où ils doivent les prendre, le Standard peut vivre une saison très tranquille, être dans le top 8, jouer les playoffs, et ça sera une saison réussie. Tout le monde sera très heureux et surtout très soulagé en bord de Meuse.
Tout à fait. On verra donc tout ça, on reprendra la compétition dans quelques temps, quelques semaines, puisque là il va y avoir une pause pour la fenêtre Ligue des Nations. On va rapidement en parler et l'évacuer. Enfin, l'évacuer. On s'est rendu compte que c'était sympa quand il y avait le Final Four et que l'équipe qu'on soutient est dedans. Le reste du temps, ça l'est un peu moins. Mais ça a, ça a l'intérêt et la vertu cette fois-ci d'être une sorte de galop d'essai pour toutes les sélections qui vont se retrouver dans un mois et demi, deux mois au Qatar pour la Coupe du Monde. La Belgique joue jeudi soir, reçoit le Pays de Galles.
Galop d'essai, mais quand tu vois, il y a pas mal de groupes qui sont amputés par les blessures et qui ou ils ont pas pris tous leurs joueurs. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est les équipes à prime là qui ont été sélectionnées.
Il y a de ça. Il y a aussi, je pense, ouais. Si tu penses à la surprise de Neuer qui a été sélectionné alors qu'il n'a toujours pas de club, ça va poser problème. Je pense que voilà, Martinez a été clair. Il a dit, je le prends cette fois. Mais s'il n'a pas de club, il pourra dire au revoir à la Coupe du Monde, ce qui est plus normal.
Cet été, il avait dit qu'il ne prenait pas les joueurs qui ne jouaient pas en club. Hasard, il est toujours titulaire et capitaine.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il va y avoir quelques petites choses à faire, à modifier côté de la sélection belge, si De Nayer notamment n'est pas et si Boyata non plus bon lui il est revenu à Bruges, mais il va falloir qu'il joue, ils sont dans le...
Après il y a quand même une variable très intéressante pour De Nayer, c'est que c'est la même agence que celle de Martinez.
Ouais,
on peut chercher ce qu'on veut derrière, chacun pourra...
Tu l'auras dit, en tout cas
je mets l'info,
vous en faites ce que vous voulez.
Voilà,
il y aura de beaux matchs Italie-Angleterre, mais bon voilà, c'est pas forcément très intéressant. Il y a un match sur lequel je vais quand même insister rapidement, c'est le match de samedi soir à 20h45 qui va se disputer au Bloomfield Stadium cette fois-ci. C'est Israël qui joue contre l'Albanie. Pourquoi j'insiste sur ce match ? Puisqu'ils sont dans un groupe qui est très particulier, puisque la Russie faisait partie de ce groupe, était le grand favori. La Russie a été exclue, bien évidemment, de la compétition. Et donc, il n'y a plus que trois équipes, Israël, l'Islande et l'Albanie. Et Israël joue son dernier match, puisqu'il n'y a que quatre matchs, finalement, dans ce groupe. Israël compte 5 points. L'Islande est deuxième, avec 3 matchs également et 3 points. Et l'Albanie, troisième, avec 2 matchs seulement, joués et 1 point. Ce qui veut dire que si Israël réussit le match nul lors de cette prochaine journée, ils ont de grandes chances de monter en Ligue A. S'ils gagnent, ce sera fait. Ce qui serait pour le football israélien exceptionnel, puisque ça leur permettrait l'année prochaine de se retrouver dans des poules avec des équipes comme la France, la Belgique, enfin le gratin du football européen. Et sur beaucoup de plans, ça change les choses.
Un petit France-Israël, ça me rappelle de bons souvenirs de 93,
ouais. Moi. Ouais, moi pas. Moi, un peu moins. J'étais au stade et
ouais,
un peu moins.
J'allais dire, justement, Samuel, il me semble que t'étais au stade.
Ouais, un peu moins. Non, Écoute, on verra ça, en tout cas, chaque chose en son temps, puisque pour l'instant, ils ont encore à battre l'équipe d'Albanie avant de pouvoir espérer.
Il y a encore Albanie-Islande, alors.
Il y a encore Albanie-Islande, oui. Il y a Albanie-Islande qui se joue, effectivement, après, je vais te dire ça exactement, puisque c'est la sixième
donc
journée.
Israël doit gagner, en fait.
Israël doit gagner pour éviter d'avoir l'Islande.
Tout le monde a encore son sort entre ses mains.
Oui, tout le monde a son sort entre ses mains, puisque effectivement, si l'Albanie gagne ces deux matchs, c'est elle qui sera qualifiée. Mais Israël, qui a souvent chuté dans des barrages, souvent contre l'Écosse d'ailleurs, là pour une fois, a une occasion franche et nette de pouvoir gagner sa place dans le premier groupe. Je vous propose qu'on passe à notre débat du jour, notre nouveau débat. On veut prendre un peu de hauteur aujourd'hui et on va parler non pas de notre actualité sportive, mais on va parler d'autre chose. On va parler d'évolution du football. Pour certains, les règles du football n'ont pas suffisamment évolué depuis la création du beau jeu. Alors bien sûr, il y a eu des innovations, notamment récemment avec la VAR ou la montre qui vibre quand le ballon rentre. Mais ce ne sont pas vraiment des changements dans les règles. C'est une assistance, ça une aide pour les arbitres. Mais des vraies modifications de règles, il n'y en a pas eu depuis bien longtemps.
Le gardien qui prend le ballon en main,
voilà,
sur une passe en retrait.
C'était 92, donc c'est bien ça, ou 93. Donc
quelque chose par là.
Ouais. Ouais, donc ça fait quand même 30 ans. Ça commence à être un petit peu long. Passer de 11 joueurs à 10, comme l'avait à un moment suggéré Arsène Wenger pour.
Lui, c'est vraiment le pro des innovations footballistiques. Hein.
Ouais, il est.
Après, on pourrait passer à 12 aussi, comme le propriétaire de Chelsea le
c'est
souhaitait.
C'est ça, lui, il le souhaitait.
Et Abbas Bayat dans le temps aussi, pour ceux qui l'ont connu.
Non, là, il ne s'agit pas de ça, là, ce serait vraiment un bouleversement. En revanche, on entend de plus en plus de voix. Qui viennent suggérer qu'on pourrait, au niveau des sanctions administratives, évoluer un peu et créer un carton orange. Ça avait été déjà évoqué en 2014 par Jérôme Champagne, qui était candidat à la présidence de l'UEFA. Il y a des anciens arbitres, comme l'arbitre anglais George Courtenay, qui soutiennent ce genre d'initiative. Et c'est vrai que parfois en match, on l'entend, quand il y a un jaune qui est donné ou il y a une grosse faute, le commentateur dit souvent celui-là c'est un jaune foncé ou ça vaudrait orange. C'est bien qu'il y a un entre-deux, il y a quelque chose dans le football qui pourrait évoluer sur ce plan-là. Il y a des rouges qui sont beaucoup trop qui sont sévères et il y a des jaunes qui ne le sont pas assez. Et donc l'idée de créer un carton orange, ça a été récemment sorti parce qu'il y a eu au cours du match Newcastle-Manchester City en début de championnat qui a fait 3-3, Kevin De Bruyne a été arrêté intentionnellement. Les joueurs de Newcastle ont fait ce qu'on appelle une faute tactique. Ils l'ont stoppé au milieu du terrain. Puis le joueur a pris un jaune. Et puis ils ont eu un coup franc au milieu du terrain. Les défenseurs s'étaient replacés. Et finalement, ils n'ont eu aucune il n'y a pas eu vraiment de sanctions contre l'équipe adverse et eux ont tout perdu. Ils avaient une franche occasion d'aller vers le but. Et donc l'idée est sortie de se dire bah, si ce type de fautes, des fautes tactiques, des fautes intentionnelles qui sont faites pour le bien de l'équipe, pourraient être sanctionnées d'un carton orange qui consisterait bien sûr à exclure le joueur temporairement du terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous évoquerait ce type de changement ? Il y a des sports déjà, bien sûr.
Qui... Justement, j'allais dire quasi dans la quasi-totalité des sports, il y a des exclusions temporaires.
C'est
le
ça.
Foot est un des derniers à pas le faire. Après, d'un autre côté, moi, je suis ni pour ni contre dans cette histoire. Je trouve qu'il faudrait en fait réguler sur le niveau européen la distribution des cartons. Si on prend par exemple le week-end qui s'est déroulé en Ligue 1 ce week-end. Il y a deux exclusions qui sont mais juste scandaleuses. Et ça, en fait, ça se voit quasi pas dans les autres championnats. Et donc, en fait, je trouve qu'il faudrait faire une espèce de charte européenne sur les sanctions, sur les cartons. Après, c'est vrai que le carton orange, c'est pas forcément bête, mais... Enfin, moi, c'est pas le foot dans lequel on a grandi. C'est vrai que, bon, ben voilà, comme tu l'as dit, il y a des innovations. Mais moi, je suis plutôt classique et je préfère rester sur le jaune-rouge. Je trouve qu'il faudrait juste prendre le sujet d'un autre côté. Il y a des cartons qui servent à rien. Par exemple, les cartons sur quand tu retires les maillots, quand
ouais,
tu célèbres un but,
voilà,
c'est stupide, ça ne sert à rien. Enfin, si le mec a envie d'enlever son maillot, il enlève son maillot.
J'imagine que c'est
ça. C'est une question de sponsoring.
Voilà,
attention.
Voilà. Ça.
Oui. Et puis pour les messages qui étaient en dessous des t-shirts aussi. Et pour tout ça, mais
c'est vrai que c'est le moment où le joueur est le plus filmé.
Tu évites en fait de faire rentrer la politique dans ton sport et tu permets par la même occasion de garder la visibilité du sponsor. Donc c'est une sanction qui est disproportionnée mais qu'on peut qualifier de cohérente, je pense.
Ouais, c'est coercitif, ça permet d'essayer de dire aux joueurs attention, respectez
surtout
votre
quand on arrive dans
la
débilité de la Juventus la semaine passée, que le joueur marque, que but est annulé,
oui,
qu'il enlève son maillot, mais qu'il est quand même exclu. C'est totalement stupide.
C'est vrai.
Par contre, je rejoins Blaise, c'est vrai qu'on ne sait pas être ni pour ni contre. Et tu vas dans n'importe quel sport du hockey, même la Formule 1, tu as des sanctions en retenant du temps.
Stop and go, oui.
Des choses pareilles. Après, je pense que le foot, il faut revoir dans le fond. On ne peut pas dire on va instaurer un carton orange et garder une jaune et on va mettre une petite blanche et une verte et une rouge. Je pense qu'il faut d'abord identifier est-ce que le foot, on veut qu'il sauve blessure une fois que tu as fait trop de remplacements, etc. Mais est-ce qu'on veut que le match se termine davantage à 11 contre 11. Ça, c'est la première chose qu'on doit aller voir. Et sur base de ça, est-ce qu'on va établir des sanctions temporaires ? Une carte jaune, c'est 2 minutes 30. Une carte orange, c'est 5 minutes. Une carte rouge, c'est 10 minutes. Est-ce qu'on va commencer comme ça ? Ou est-ce qu'on va garder le système actuel et encore rajouter quelque chose d'hybride dedans ?
D'hybride,
mais je pense qu'on arriverait dans des situations assez ridicules. Une carte rouge, puis une carte orange pour l'un, encore une carte orange de l'autre côté, il revient, on ne sait pas. Il y a toute une logistique aussi.
Oui, c'est ça.
Derrière.
C'est ça que je disais, en fait. Il faut vraiment faire une charte.
Mais
quoi,
la charte, comme tu dis, ça serait essentiel parce que je pense que la France perd beaucoup de points en Coupe d'Europe à cause de ça cette année. Les joueurs sont conditionnés en Ligue 1 à voir l'arbitre du coin de l'œil. Et s'ils éternuent, ils se prennent une jaune. Tandis qu'en Europe, ils vont jouer de l'épaule, par exemple, et ça ne va même pas être sanctionné d'une
faute. Ça s'est vu sur le match de l'OM, où il y a 2-3 tacles, où c'est des tacles assez rudes. Les mecs s'arrêtent de jouer direct. L'arbitre, il n'en a rien à faire. Il fait le jeu continue. Et tu as raison, ils perdent des points, c'est sûr et certain. Mais ce n'est pas le seul championnat. Là, j'ai pris cet exemple-là, parce que c'est celui que je suis le plus, et qui fait le plus parler de lui en ce moment. Mais c'est vrai, moi je trouve qu'il faudrait en fait... Vraiment européaniser le terme des sanctions.
Moi, je suis pas contre à la base, notamment pour des sanctions, on en parlait, qui sont un peu ridicules. Quand c'est un deuxième carton jaune qui vient pour une chose ridicule, qui entraîne quand même un bouleversement énorme dans le match, on finit à 10 contre 11, on sait que ça a une importance folle. Vous avez pris un jaune parce que vous avez fait un tacle appuyé, c'est normal, vous avez pris votre jaune. Et puis 25 minutes après, vous êtes dans un mur, et puis vous êtes pressé, vous sortez un peu trop tôt du mur et l'arbitre vous met un deuxième jaune. Ou alors, et ça c'est la pire de toutes, et ça je comprends même pas que ça existe encore, c'est les arbitres qui mettent un carton jaune au joueur qui frappe le ballon après le sifflet ou qui l'envoie dans la tribune. C'était valable il y a 30 ans quand il y avait un ballon et que le public le gardait et qu'il mettait du temps à revenir. Mais là il y a 10 ballons autour du terrain, qu'est-ce que ça peut faire que le ballon soit allé en haut ? Alors à part bien sûr quand c'est un geste d'énervement qui paraît non, qui marque le manque de respect envers l'arbitre. Mais si il y avait eu Van Persie une année qui a
c'est
frappé,
ça, j'allais dire justement l'exemple de Van Persie.
Voilà, il prend un jaune et puis il frappe. Il n'a pas entendu vraiment le coup de sifflet de l'arbitre et l'arbitre lui dit bah deuxième jaune, carton rouge. Il comprend même pas ce qui se passe. Bon bah pour ce genre de choses, bon la faute en elle-même, je suis même pas pour. Mais je veux dire par exemple que retirer le maillot, je comprends que pour les sponsors ce soit essentiel que les joueurs conservent leur maillot, mais que ça aboutisse pas à un rouge parce que c'est vraiment idiot. Mais par contre qu'on puisse lui dire bah tu restes 5 minutes ou 10 minutes dehors. En plus, pour les sponsors, ce serait une bonne chose parce qu'on pourrait faire un gros plan sur le joueur et voir encore mieux le sponsor sur le
mais
maillot.
Quid des remplacements, etc. Est-ce que le joueur peut être remplacé ou pas, ou des trucs comme ça? Ça a énormément d'impact dans le fond.
Ouais, et puis il y aurait aussi peut-être des problématiques de liées au physique. Est-ce que le fait de s'arrêter 5-7 minutes, de se refroidir et de repartir au combat après n'entraînerait pas trop de risques pour les joueurs?
Très bon argument.
Et voilà. Eh bien, écoutez, on va finir sur un bon argument. J'ai été ravi, on a été tous les trois ravis de passer cette heure en votre compagnie. On vous donne rendez-vous bientôt. On vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans deux semaines. D'ici là, passez de bons de bonnes
bonne Nations League à tous.
Bonne Nations League à tous. Et Shanatova à tous ceux qui. Faites Rosh Hashanah et puis bonne année à tous aussi, même ceux qui ne le font pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye,
à bientôt.